Europe 1, 15h, 16h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour. Joséphine Baker avait deux amours, son pays et Paris. Éric Neuhoff, lui aussi, a deux amours, la littérature et le cinéma, des passions infusées par une nostalgie délicieuse et assumée. Son nouveau livre, Sur le vif, qui paraît aux éditions du Rocher, nous offre donc ces mythologies intimes avec une galerie de portraits, de personnalités du 7e art et de la littérature, saisissant par leur désenchantement élégant, et puis ces lieux magnifiés par l'exaltation des souvenirs, le tout dans une prose ciselée, tendre et cruelle. Quand Paris était une fête, eh oui, c'était hier. Je reçois Éric Neuhoff, écrivain, journaliste au Figaro et au Masque et la Plume.
Europe 1.
Bonjour Éric Neuhoff, bienvenue.
Bonjour, merci à vous.
Éric Neuhoff, Victor Hugo disait que la mélancolie est le bonheur d'être malheureux. Il y a de ça dans la nostalgie, car on comprend à vous lire que en fait, le souvenir des temps enfuis est comme un nectar à boire. La nostalgie est votre carburant, hein.
Oui, c'est vrai que j'aime beaucoup le mot de nostalgie. C'est peut-être à cause du temps qu'on appelle l'imparfait, qui est le temps du romanesque, et l'imparfait dans tous les sens du terme d'ailleurs. C'est, on se retourne et puis quelque chose n'est jamais vraiment fini. Et je crois que c'est ça les souvenirs, et que c'est un peu la farine du boulanger, la nostalgie, pour un romancier, un écrivain. Et quand on se retourne, on voit toutes les choses qui restent, comme les coquillages sur une plage à marée basse, et on n'a jamais les mêmes. C'est ça qui est bien. on peut repenser à des périodes, et puis des souvenirs ressurgissent qui sont différents, et c'est le filtre de la mémoire qui change tout ça.
Et si on en croit un autre écrivain, et pas des moindres, Fitzgerald, toute vie est un processus de démolition. Alors ça vaut pour les êtres comme pour les époques. Donc, finalement, le passé a forcément plus d'éclat que le présent.
Oui, et puis le passé, c'est comme dans Gatsby, c'est la lumière verte que le héros regarde clignoter de l'autre côté de la baie et qu'il n'atteindra jamais, mais qui lui sert de phare, de boussole et puis de remords. C'est ça qui est bien. Oui. Mais moi, je trouve que c'est très très bien d'admirer les gens. Ce sont des exercices d'admiration, ce livre. Et tous ces écrivains, tous ces cinéastes, nous ont apporté tellement de joie, de bonheur, de réconfort, de tristesse, que je trouvais qu'il était normal de les remercier.
Alors ainsi, Éric Neuhoff, très souvent, eh bien, vos livres nous invitent à regarder par-dessus notre épaule. Mais qu'y avait-il de plus ou de mieux dans ce monde d'avant qui, chez vous, se cristallise souvent autour des années 70?
Ah ben, les années 70, moi j'ai eu le malheur d'être adolescent à ce moment-là, et en ce qui concerne le cinéma, c'était vraiment une période bénie. Il y avait des chefs-d'œuvre à l'appel, on voyait tous les films de Sauté, de Romère, les Truffaut, les premiers Bertolucci, la comédie italienne, Le Parrain, les Scorsese, Délivrance, Cabaret. Enfin, c'était une période incroyable où on ne savait plus où donner de la tête. Et le problème, c'est qu'on a cru que ça allait durer toujours, que le cinéma serait toujours un art bourré de chefs-d'œuvre. Et les livres, eux, vieillissent moins, là, je trouve. Là.
Ou vieillissent mieux.
Ouais, mieux, oui, le terme est meilleur, là, vieillissent mieux.
C'est... En fait, votre regret éternel, c'est de ne pas avoir vécu dans un film de Claude Sautet, c'est ça?
Ouais, parce que bizarrement, quand je voyais des films, je m'identifiais au héros. Alors que quand je lisais un roman, j'aurais voulu être l'auteur et pas du tout le personnage. J'aurais préféré être Fitzgerald plutôt que Gatsby, si vous voulez.
Alors en plus, dans la vie vraie, contrairement au cinéma, bah, y a pas de scène coupée. C'est le problème finalement de la vie vraie.
C'est le problème, et aussi c'est
l'attrait. Parfois le montage est mauvais.
Il n'y a pas de brouillon dans la vie. On ne peut pas dire « je vais remettre ma copie au propre », mais c'est aussi ce qui fait avancer, hein, les erreurs, les échecs. Pour gagner, il faut savoir perdre. Et les échecs sont peut-être plus instructifs que les succès. Et les histoires d'amour ratées sont peut-être plus intéressantes que les mariages réussis.
Alors le cinéma a sans doute été inventé pour pallier les faiblesses de l'existence. Et puis avant lui, la littérature, pour les mêmes raisons. Vous venez de nous dire que, en fait, peut-être les livres vieillissent-ils mieux que les films anciens. Mais en 2020, lequel des deux a le plus de pouvoir, selon vous ? C'est le cinéma ou c'est la littérature ?
Je dirais la littérature. Je n'étais pas de cet avis avant, mais je crois qu'elle est plus costaud et que c'est inaltérable. Alors que le cinéma est quand même un art moderne, un art forain, qui correspond à une époque, alors que la littérature est quelque chose de plus éternel. Et les livres seront toujours là, à mon avis. Et d'ailleurs, pour tourner un film, on a besoin d'un livre, en général, à la base, ou en tout cas d'un scénario de l'écriture.
Éric Neuhoff, que reste-t-il de l'esprit français, cette liberté crâne qui animait autant François Sagan que Michel Audiard ou Brigitte Bardot?
Ah ben vous citez trois personnes qui étaient quand même l'esprit français incarné.
Et qui sont en bonne place dans votre nouveau livre intitulé
Sur le
vif.
Qu'on regrette de plus en plus. Moi, je me souviens, à l'époque, quand il était vivant, Audiard était traîné dans la boue. Et aujourd'hui, c'est devenu un auteur culte dont la France entière se récite les répliques. Et Sagan, c'était vraiment quelqu'un d'épatant. La grâce incarnée, la fantaisie, le plaisir. Et la tristesse aussi, à qui elle disait bonjour. Et puis, c'est quelqu'un qui avait inventé cette formule fabuleuse. On ne sait jamais ce que le passé vous réserve. Et c'est tellement vrai. Parce que l'avenir est souvent décevant.
Et puis, il faut du courage pour être libre et ne pas marcher dans les clous. L'esprit français, à l'époque, Marielle Panache à la rébellion.
Oui, mais c'est la liberté. C'est ça, les Français. C'est tirer les premiers messieurs les Anglais, c'est mourir debout, tomber avec un éclat de rire, s'écrouler à table devant un bon plat comme pratiquement notre ami Denis Tillinac la semaine dernière.
Oui.
Et c'est ça la France, c'est quelque chose que le monde entier nous envie, j'imagine. Et c'est pas du tout l'humour à l'anglaise, ni la joie de vivre à l'italienne, c'est quelque chose de très concret et de très partagé. L'esprit, on sent tout de suite quelqu'un qui est français, comme Jean d'Ormesson, Sacha Guitry, ça n'existe que chez nous. C'est peut-être un petit peu en train de disparaître, hélas, mais ça reviendra et il y aura toujours, comme pendant la Prohibition, des speakeasy pour avoir des conversations enlevées, en cachette.
Alors, l'époque qui a votre préférence, elle a une patine effectivement particulière, parce que, par exemple, quand on regarde les images de mai 68, on voit les étudiants lancer des pavés, mais certains portent des cravates. Donc, le chaos d'avant avait de la tenue.
Oui, c'est ça qui était rigolo, c'est de voir que les étudiants étaient des bourgeois. Et c'était amusant, parce qu'à l'époque, dans ces années-là, Pasolini, en Italie, lui défendait les CRS contre les étudiants en disant le vrai peuple, ce sont les CRS, les autres sont des enfants gâtés, des fils de bourgeois. Et ce n'était pas entièrement faux, là. Mais c'est vrai que c'est curieux de voir des manifestants en veste de tweed, en cravate et en imperméable, alors qu'aujourd'hui, d'ailleurs, plus personne ne met de cravate, pas seulement les
exactement.
Étudiants.
Et puis, à cette époque-là, Éric Neuhoff, il y avait Jacky Bisset.
Ah ouais. Ah. Mais on n'a pas le droit maintenant de dire qu'une actrice est jolie. Il paraît que c'est sexiste, alors que c'est quand même le béaba. Un acteur ou une actrice, c'est aussi un corps, ou peut-être même avant tout
micro,
un corps.
À ce micro, vous avez tous les droits.
Oui. Ça ne me gêne pas, ça. Et oui, c'est vrai que les actrices, c'était quand même un sérieux motif pour aller voir les films. Et les acteurs aussi, d'ailleurs. Mais Jacqueline Bisset, Romy Schneider, Jane Birkin, et puis les étrangères, Rita Hayworth, pour une génération précédente, c'est un bon motif. Et je crois que les cinéastes tournaient des films parce qu'ils étaient souvent amoureux de leur comédienne. Et ça donne des beaux résultats.
La nostalgie est son miel et nous offre de superbes pages à lire dans Sur le vif qui paraît aux éditions du Rocher. On se retrouve tout de suite avec Éric Neuhoff.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. 15h, 16h sur Europe 1.
Alors Éric Neuhoff, vous déclarez donc: j'ai eu le malheur d'être adolescent dans les années 70, c'était une époque bénie. Donc on comprend que vous en êtes toujours parmi. Mais l'époque était bénie plus pour le futur critique cinéma que vous êtes devenu ou pour le futur écrivain et critique littéraire? Parce que je crois savoir que très jeune, vous avez commencé à lire Antoine Blondin, Roger Nimier, le journal de Julien Green. Donc
oui,
la fascination première et spontanée, elle était pour l'objet livre ou pour les films?
Pour l'objet livre, parce que comme à l'adolescence, j'habitais en province, c'était plus facile d'acheter un livre de poche que d'aller au cinéma, parce qu'il y avait peu de cinéma et les films arrivaient 6 mois après les sorties parisiennes.
Et à étaient... ce point-là,
ah,
en
oui,
province
oui, 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 oui. Dans les années 70 en tout cas. Et était toujours en version doublée, ce qui était un peu dommage. Mais alors que moi, je me souviens, j'étais en première quand la collection Folio s'est créée. Et avec un copain, on achetait à tour de rôle chacun des numéros qui sortaient et on se les échangeait. J'avais toute la collection. Mais j'ai commencé par lire des âneries, hein, pas seulement Blondin et Nimier, comme vous dites, mais des Bob Moran à la tonne, SAS Antonio. Et puis après, ben, on découvre d'autres choses. Là. Et puis c'était l'époque où vous parliez du journal de Julien Green, où tous les tomes du journal sortaient en volume, en poche. Et c'était
pour un adolescent, quand même, c'est pas anodin, parce que Julien Green, écrivain très chrétien, une prose grave, austère.
Ça parlait de ses lectures, de sa vie à Paris, puis il habitait Paris. Alors ça aussi, pour un provincial, c'est quelque chose de très excitant. C'est déjà du romanesque. Moi, j'ai découvert Paris à travers les films que je voyais à la télévision ou dans les salles. Et pour moi, c'était des vacances. C'était une façon de partir.
Il y avait un terreau particulier dans votre famille pour l'appétit littéraire, Éric Nerhoff, ou bien c'était juste votre curiosité à vous ?
Ben non, c'était plutôt moi. Moi, mes parents aimaient plus le jazz, le cinéma et le rugby.
Il faut dire que vous habitiez du côté de Toulouse.
Oui, à Cahors. Et alors, ouais. Où l'équipe de rugby n'était pas faramineuse à l'époque, mais ça comptait beaucoup. C'était le terroir. Et c'était aussi une époque où les villes de province ne se ressemblaient pas toutes. Ce n'était pas les mêmes boutiques qu'à Paris. On ne pouvait pas s'acheter de jeans Levi's, de basket Springcourt. Ça n'existait pas. Et ça, ce décalage aussi était très exaltant. Parce
alors
que
l'adolescent que vous étiez... Ouais. À Cahors, on ressemblait à quoi ?
Oh, un petit con, je pense, à un type qui rêvait. Je me disais que la vie allait ressembler à celle d'Antoine Doinel dans Les Truffauts, que je serais Yves Montand dans César et Rosalie, ou Robert Redford dans Nos plus belles années.
Belle référence.
Ça compte, tout ça. C'est un bon moteur. Ça sert à ça. Ça aide beaucoup à ce que les journées soient moins longues de lire et de voir des films.
Mais alors, à l'âge de 16 ans, Éric Nerhoff, vous allez m'arrêter si je dis faux, vous ne rêviez de devenir ni écrivain ni critique littéraire, vous rêviez de devenir critique de cinéma. Pourquoi pas réalisateur de films ? Parce que critique de cinéma, on est dans le retrait et la précaution. C'est curieux à 16 ans de rêver de devenir un juge ?
Oui, mais c'était à cause de Jean-Louis Borry au Masque et la Plume que j'écoutais le dimanche soir et je trouvais ses interventions épatantes, drôles, intelligentes, même si avec le recul, je me suis aperçu que ses goûts étaient un petit peu bizarres. Mais oui, j'avais envie de devenir ça, que mon métier ce soit d'être payé pour voir des films et puis réaliser un film, ça ne m'a jamais tenté parce qu'il y a beaucoup trop de monde autour du metteur en scène et c'est un truc trop collectif pour moi. Moi, j'aime bien être assis à un bureau avec un stylo et puis me débrouiller tout seul dans mon coin.
Alors un jour, vous avez ouvert le premier roman de Patrick Besson, Les petits mots d'amour. Vous étiez en terminale, comme lui d'ailleurs, puisque vous avez le même âge. Et vous avez été fasciné par le fait qu'un garçon de 18 ans seulement soit déjà publié. Ça a fait sauter des verrous en vous ?
Oui, bien sûr. Ça, je l'ai admiré. Et puis j'étais... pas jaloux, mais ça m'a rassuré. Ben, je me suis dit, pourquoi ne pas le faire ? Bon, j'ai mis quelques années à le rejoindre. C'est un très bon ami, d'ailleurs, que je vois toujours. Mais c'était voir un type de terminal. En plus, le roman était excellent, les petits mots d'amour.
Excellente critique. Et même, il avait été interviewé par Bernard Pivot pour Le Figaro, à l'âge de 18 ans.
Qui, à l'époque, lui avait reproché une phrase dans le livre. Patrick avait écrit « Le ciel mauvit ». Oh, devient mauve. Et Pivot avait dit, il ne faut pas écrire des choses comme ça.
On peut dans une poésie, mais peut-être pas un roman.
Ouais. Voilà. Non, mais pas de poésie, là. Au secours.
Voilà, donc, à partir de là, Éric Nerhoff, vous promettez d'écrire, vous entrez en fac de lettres, mais un grave accident, un accident de voiture, va redistribuer les cartes, c'est ça ?
Oui, j'ai passé un an en clinique après cet accident. Et du coup, j'ai jamais vraiment fini ces études de lettres que je suivais de façon un peu alanguie, disons. Mais c'était aussi un choix pour continuer à lire des livres et ne rien faire, aller au cinéma.
Parce que de toute façon,
on n'a pas besoin de prof pour étudier la littérature.
On n'a pas besoin de prof pour ça.
Non, on apprend à lire et à compter, puis ensuite, c'est l'engrenage. Ça roule tout seul.
Donc, vous lisiez Bernard Franck, vous lisiez Gérard Guégan.
Comment vous savez tout ça ?
Mais je sais pas mal de choses. Vous commencez à noircir votre premier manuscrit, vous l'envoyez, il est refusé par le Mercure de France, il est refusé par Grasset. Alors, vous commencez à faire du journalisme, à une époque de réelle liberté, où règne d'ailleurs le flamboyant Jean-Michel Gravier, qui écrit sur le monde de la nuit, sur le cinéma, sur les actrices. Il y a eu une sorte d'émulation. par rapport, par exemple, à ce personnage, puisque vous n'entriez pas encore officiellement en littérature.
Non, mais puis c'était une belle époque, parce que moi, j'étais au quotidien de Paris, là, de Philippe Tesson, où régnait vraiment une liberté insensée. On pouvait faire tout ce qu'on voulait, de préférence n'importe quoi. Et en face, c'était le Matin de Paris, où écrivait Jean-Michel Gravier, qui était un chroniqueur comme on ne pourrait plus en publier aujourd'hui, avec une insolence. C'est quelqu'un qui incarnait aussi cette période de liberté, le côté marrant, un provincial de Grenoble monté à Paris.
Et donc puis, plus parisien qu'à parisien,
oui,
finalement.
Oui, qui sortait tout le temps, qui avait fini par connaître la terre entière et qui gardait son côté marrant. Et il était toujours émerveillé de ce qu'il découvrait, de se dire... Je peux rentrer dans des boîtes privées, je peux tutoyer Isabelle Adjani. Et ça, je sais qu'il a réussi sa vie à cause de ça.
Alors revenons à vous. Le quotidien de Paris, Éric Neuve, vous payez pour écrire sur le cinéma, sur les livres, sur la culture. Payez très mal.
Mais c'était pas grave.
Mais au moins, vous écriviez sur ce qui nourrissait vos passions. Et l'excellent Jean-Marie Roard était votre patron. Donc c'était l'époque où, dans un journal, on pouvait être dirigé par un futur académicien.
Oui, et puis par un très bon écrivain. C'est le nombre de gens que Jean-Marie Roard a fait démarrer.
J'aime bien la précision, parce que ça veut dire qu'il y a des académiciens qui ne sont pas forcément de bons écrivains.
Bah, y en a qui sont médecins. Alors, un mauvais écrivain, c'est moins dangereux qu'un mauvais médecin.
Voilà. Donc,
mais oui, le talent n'est pas forcément la condition sine qua non pour être à l'académie ou dans un jury, hein, de toute façon. Mais c'était vraiment une période où tout un tas de jeunes démarraient. Patrick Besson, il y avait Dominique Bonnat, Laurence Cosset, Georges-Marc Benamou. Tous ces gens qui ont fait plein de choses après, oui.
Éric Neuve, aujourd'hui dans le journalisme, il manque des gens qui aiment lire.
Oui, je crois. Il y a trop de livres, comme on dit. Beaucoup d'appelés, peu de lus, pour parodier la célèbre formule.
Oui.
Et c'est très difficile. Les rubriques littéraires sont réduites à la portion congrue. Et je me demande comment font les gens normaux pour choisir un livre, comment ils se déterminent.
Ils passent du temps dans les librairies.
Mais ils doivent y aller, parce que c'est ça qui est formidable, c'est que dans une librairie, on entre, on voit une couverture, on ouvre, et on prend un livre dont on ignorait l'existence en poussant la porte. Et puis un livre, ça s'offre. Ça ne se prête pas, ça se donne.
Ça se donne. Alors effectivement, dans le journalisme aujourd'hui, il manque des gens qui aiment lire, mais plus grave encore, dans l'édition, il manque des gens qui aiment lire.
Oui, je pense aussi, parce qu'il n'y a plus de personnages comme Jacques Brenner, François Nourricier, Jean-Claude Fasquelle. Oui, et puis la course au best-seller est quand même devenue la règle, et c'est un petit peu dommage, parce que ça a toujours plus ou moins existé, mais ça servait à un moment donné à publier des livres qui ne se vendaient pas, d'écrivains qui aimaient le patron de la maison. Et comme dit Jean-Claude Fasquelle, un écrivain, ça se publie jusqu'à sa mort. Et ça, je crois que ça n'est plus vrai du tout dans le milieu.
On continue notre balade en compagnie d'Éric Neuf, qu'on retrouve dans quelques instants.
Europe 1, Philippe Vandel.
Demain, dans Culture Média, le docteur Jean-Marc Sen, médecin du sport et de l'équipe de France de judo, pour un documentaire inédit sur le mal de ventre, notre deuxième cerveau. Et puis la comédienne Noémie Delattre pour un spectacle très drôle et très juste. Ça s'appelle Féministe pour hommes.
Europe 1, Culture Média.
À demain, 9h, sur Europe 1.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Avec Isabelle Morizet sur Europe 1.
Éric Neuf, qui publie aux éditions du Rocher Sur le vif, une galerie de portraits ciselés dans une prose à la fois cruelle et tendre. Et cet après-midi, mon invité. Alors, cher Éric Neuf, on évoquait à l'instant le monde de l'édition qui a tant changé depuis vos débuts en 82, lorsqu'à l'âge de 26 ans, vous avez été publié. Vous dites qu'il n'y a plus aujourd'hui d'éminences grises comme François Nourricier, comme Jacques Brenner, mais il n'y a plus non plus d'émissions à la télé qui soient un baromètre réel pour les livres, comme l'était Apostrophe. Et vous concluez par, de toute façon, la littérature est faite pour 3000 personnes. Alors j'adore cette formule, il faut vraiment que vous la commentiez. La littérature est vraiment faite pour 3000 personnes, c'est votre penchant pour la nostalgie qui vous égare ou bien c'est réel ?
Non, c'est mon optimisme. 3000 personnes, c'est énorme.
Ah bon ?
C'est quand même une petite ville, mais je ne voudrais pas que ces 3000 personnes soient réunies toutes ensemble. J'aime mieux que ce soit disséminé un peu à droite et à gauche et Et 3000 personnes, oui. Mais de toute façon, ce n'est pas fait pour des millions de personnes, les livres. Moi, si on m'obligeait à faire du bricolage ou de la planche à voile, ça ne m'intéresserait pas. Et je comprends que les gens ne lisent pas, n'aiment pas ça. On n'est pas obligé. Il faut que ce soit un plaisir, la lecture. Ça fait partie des plaisirs de la vie, comme un rendez-vous avec une femme qu'on aime, un restaurant, un match de rugby ou une promenade à Venise, par exemple, sans être snob. Et un livre, c'est ça, c'est un bonheur à soi. Et surtout, quand on lit une phrase dans un livre, on est certain qu'à la même seconde, personne d'autre dans le monde n'est en train de lire cette phrase. Et ça, je trouve que ça n'a pas de prix.
Alors, vous déplorez qu'aujourd'hui, on publie peu de vrais romans au profit des autofictions, des biopics et des faits divers transformés en livres. Même Marc Lambron, dites-vous, n'écrit plus de romans. Pourquoi cette désaffection du genre ?
Je ne sais pas pourquoi, mais ça me désole, effectivement. Enfin, je sais pourquoi, parce que c'est plus difficile d'écrire un roman que de raconter sa dernière couche culotte, j'imagine. Mais c'est dommage, parce que c'est tellement beau, un roman. Moi, j'ai découvert l'été dernier une romancière anglaise que je ne connaissais pas, Shirley Hazard, Le passage de Vénus, mais c'est prodigieux. Il y a 600 pages, je vous en parle là-dedans.
Le passage de Vénus.
C'est magnifique. Et un roman réussi, les Anglais savent très bien le faire, et les Américains aussi, quand vous lisez James Salter ou Tendre la nuit, les romans de John Irving, ce sont des raconteurs d'histoire et on part avec eux. Moi, ça me rend jaloux et ça me rend heureux de lire des beaux romans comme ça, si bien faits, parce que je sais très bien que je n'y arriverai jamais.
Bon, dans ce livre...
Mais ça ne me gêne pas, hein. Je préfère les livres
là,
des autres.
C'est la modestie qui vous égare. Alors, Éric Neuhoff, dans ce livre, qui paraît donc aux éditions du Rocher, intitulé « Sur le vif », vous exhumez cette phrase de Bernard Franck. On écrit son premier livre comme un testament, pour dire que quelque chose n'allait pas et que cependant, on n'était pas coupable. C'est ainsi que vous avez écrit votre premier livre, Précaution d'usage, comme un testament.
Ah oui, je pensais que ce serait le premier et le dernier et que ça suffirait, que ce serait la révolution, que ce serait comme Sagan, un succès énorme. Et puis je pensais que toutes les filles me tomberaient dans les bras, que j'allais faire fortune. Alors que la seule réaction qu'ont eu mes amis quand je leur ai dit que je sortais un roman, c'était pas de savoir de quoi ça parlait, mais ils m'ont dit « bah alors tu vas passer chez Pivot ». Ce que j'ai fait d'ailleurs, à ma grande terreur, parce que j'étais catastrophique. Parce que quand j'allais à Apostrophe, je vendais encore moins que quand je n'étais pas invité, tellement j'étais mauvais. Mais là aussi, c'était un vrai rendez-vous. C'est là que les choses ont changé. Ouais. Les gens restaient chez eux le vendredi soir pour regarder Apostrophe. Il y avait les piles des livres de la semaine dans toutes les librairies et dans les grands magasins. C'est avec les photos des auteurs. On n'imagine plus ça aujourd'hui. Je ne veux pas faire de peine à ceux qui ont succédé à Pivot, mais ce n'est pas du tout le cas. Là, personne ne parle des émissions où sont invités les auteurs aujourd'hui.
Alors il y avait moins de chaînes de télé aussi.
Aussi, oui, mais préciser. Quand vous revoyez les trucs de Pivot, il était fort, hein. Il avait lu les livres, il savait s'effacer, faire parler ceux qui étaient timides, interrompre ceux qui étaient trop bavards. Et il y avait une fraîcheur et un appétit.
Mais ouais. Il n'avait pas su vous faire parler, vous, Éric Neuhoff.
Non, mais ça, c'était pas grave. J'étais avec Jean Dormesson, donc moi, j'écoutais Jean Dormesson.
Vous étiez spectateur. Ouais, ouais. Voilà. Alors, revenons à vous. Votre prose, elle est ciselée à la pointe sèche, efficace, épurée, avec le sens des formules, comme l'avait François Sagan. Le style se perd aujourd'hui.
Oh, il y a toujours des bons écrivains. Il y a toujours ces écrivains français en italique, là, comme Marc Lambron, Besson, Tillinac, qui trouvaient qu'il fallait dribbler avec les mots, faire fouetter les phrases et qu'il y ait une musique qu'on entende à l'oreille. Ça se perdra jamais vraiment.
Nous, lecteurs, avons le sentiment qu'il existe deux sortes d'écrivains. Ceux qui s'extraient du monde comme enfermés dans leur cellule pour noircir des pages, et puis ceux qui, comme Hemingway par exemple, ou Sagan, brûlent la vie par les deux bouts pour mieux la mettre en mots. François Mauriac, lui, affirmait qu'un dîner accepté, c'était un chapitre en moins. Elle ressemble à quoi, votre vie d'écrivain à vous ?
Bah moi, je trouve qu'un dîner accepté, c'est une occasion d'écrire un chapitre.
En plus,
en général. Mais non, Mauriac n'avait pas une vie très folichonne. Hein. J'aime mieux la vie de Sagan ou d'Hemingway. C'était plus amusant, plus sportif.
Qui ressemblait à leur livre.
Oui, oui. Et puis, c'était fait pour ça aussi. C'est tout un art de vivre. C'est le plaisir. Moi, c'est toujours ça quand les gens vous disent « J'ai l'angoisse de la page blanche, c'est terriblement difficile ». Je me souviens que dans une émission, Jacques Laurent est passé avec une romancière qui était là en train de pleurnicher. Il lui avait dit « Si vous n'êtes pas faite pour ça, n'en dégoûtez pas les autres. »
À l'antenne,
ouais.
C'est magnifique.
Mais c'est tellement vrai aussi, parce que Écrire, c'est vraiment quelque chose de très simple. Hein. On s'assied, on prend un stylo, puis ça, ça sort tout seul. Si on doit se torturer, il faut mieux aller faire des...
Bah, Jacques Laurent, que vous citez, qui s'était livré à deux sortes de prose assez différentes, puisque sous un pseudonyme, celui de Cécile Saint-Laurent, il était l'auteur des Caroline Chéri, et il a quand même décroché un Goncourt ensuite, sous son vrai nom.
Pour les bêtises, voilà. À l'époque, oui. Et c'était quelqu'un qui dictait ses livres. Et ça, c'est quand même fabuleux, parce qu'il faut savoir le faire.
Donc la petite musique, il l'avait déjà bien en tête.
Mais c'était un esprit, une très très belle mécanique intellectuelle. Hein. Je ne l'ai jamais entendu dire une bêtise, Sagan non plus d'ailleurs. Et ça aussi, c'est quelque chose de rare.
On retrouve tout de suite Éric Neuhoff.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. 15h, 16h sur Europe 1.
Personne n'a le désenchantement plus élégant et acerbe qu'Éric Neuhoff, qui publie aux éditions du Rocher ses mythologies intimes dans un livre intitulé « Sur le vif ». Alors Éric Neuhoff, vous avez toujours écrit sur le cinéma avec une saine et réjouissante férocité, qui aime bien châtie bien. Ainsi, votre état des lieux du cinéma hexagonal, paru sous le titre « Très cher cinéma français », a-t-il reçu le prix Renaudot du meilleur essai l'année dernière. Un prix remis donc par un jury présidé par Patrick Besson et composé de Frédéric Becbédé, de Jean-Marie Le Clézio, Jérôme Garcin, Franz-Olivier Gisbert, entre autres, que vous avez donc tous convaincus. Mais pourquoi cette fois-ci tant de férocité chez le cinéphile que vous êtes? C'était une bombe, hein?
Oui, mais c'était un pamphlet, donc c'était quelque chose d'excessif, et puis il y avait beaucoup de dépit amoureux, là. C'est que, moi, il y a 250 films français qui sortent chaque année, on conviendra que c'est beaucoup trop, je ne les vois pas tous, mais j'en vois au moins 200.
Ah oui,
et au bout d'un
même
moment, il y a eu quand même un trop-plein, et puis une colère, peut-être même une rage, qui m'a saisi de voir tous ces films si peu nécessaires, si peu exaltants, où on sentait même pas l'effort, mais jamais le plaisir, la joie de filmer ou la souffrance de filmer, comme disait Truffaut. C'est des trucs comme l'ardoise magique qui sont tout à fait éphémères, dont on ne retient rien. Et ben voilà, ça a été un coup de gueule, ça m'a amusé, oui, ça m'a pris comme une rage de dents.
Donc pour vous, la notion de plaisir a disparu du cinéma français, qui se noie dans la gravité et le sociétal.
Oui. Bah, mais un film français, le nombre de gens qui vous disent « je ne vais plus voir un film français », ça me rend triste aussi. Je les comprends, hein, parce qu'on aurait beaucoup de mal à les convaincre. Il n'y a même pas 10 films... bon film français par an, maintenant.
Mais alors, la faute à qui, Éric Neuhoff? La faute à l'époque, à la bien-pensance, à la société, à la FEMIS, l'unique école de cinéma qui façonne tous les apprentis réalisateurs dans le même moule?
Un petit peu, oui. Et puis le système de financement du cinéma qui est entièrement aidé par l'État, enfin entièrement, en très grande partie, ce qui fait que plus personne ne prend le moindre risque sur un film. Le producteur est salarié, alors qu'un producteur, ça doit être un fou qui mise sa chemise au casino pour payer l'équipe, qui a envie de faire tourner sa petite amie et qui sait que quand le film sort, soit il sera milliardaire, soit il sera ruiné.
Ces producteurs-là n'existent plus.
Ah bah non, on avait un producteur, maintenant il décroche son téléphone, il appelle la banque, l'État, les télévisions, les régions, et puis il gonfle le budget pour garder une enveloppe dans sa poche. Mais l'art, ça doit être quelque chose que personne ne vous demande, ça doit être le risque permanent. Oui. Et c'est ça qui était bien dans la nouvelle vague. C'est pour ça que leurs films sont quand même assez inoubliables. On voit que c'était des bandes de copains qui tournaient ensemble, qui étaient jeunes, qui faisaient ça comme si leur vie en dépendait au début.
En fait, vous vous êtes jamais remis de la disparition de Truffaut, de Lumal et de Claude Sautet?
Bah oui, un petit peu. Oui, Truffaut était quelqu'un qui avait l'air de tenir le cinéma français à bout de bras, nous faire croire que ça allait continuer éternellement, que c'était toujours un art. Et puis on sent bien qu'une fois qu'il est parti, les choses se sont délitées. On est passé au film de Luc Besson et puis au film sociétaux, aux prises de tête. Je n'ai rien contre, mais il faudrait qu'il y ait le talent derrière et qu'on puisse sortir en se disant... j'ai appris quelque chose, j'ai été ému, et pas cette indifférence en 24 images secondes.
Alors dans ce pamphlet, baptisé donc « Très cher cinéma », vous n'épargnez pas non plus les acteurs. Vous dites « aujourd'hui, ils ne jouent plus, ils pensent ». Bon, la formule est très drôle, mais elle est cruelle. Ouais.
Mais il ferait mieux de dépenser, de flamber. Et non, un acteur, quand on regarde la cérémonie des Césars, pas seulement celle de l'année dernière qui était affligeante, mais on se dit « mais qu'est-ce qu'ils ont? Pourquoi ils sont aussi tristes, ternes, conformistes, alors que quand on voit les acteurs américains, c'est beaucoup plus flamboyant. Ils ont des textes qu'on leur a peut-être écrits. Mais là, c'est filandreux, c'est plat, c'est...
Mais
c'est,
ils c'est prennent pas... la couleur du cinéma sociétal dont ils sont les
Sans
héros.
Sans doute, oui. Et puis on voit qu'ils se coulent dans un moule, qu'ils ont peur, qu'ils n'osent pas s'amuser, alors que c'était fait pour ça.
Quant aux actrices, alors elles ne vous font plus rêver du tout. Et vous tirez carrément au bazooka sur Isabelle Huppert en écrivant « À 50 ans, elle se crut sensuelle. Par la suite, elle ne cessa de rajeunir. Drôle d'idée pour cette petite dame pincée qui trottine d'une démarche furibarde parce qu'on ne lui a pas donné de pourboire. » Vous avez croisé Isabelle Huppert depuis la sortie de ce livre ?
Non, mais je ne les connais pas, moi, les acteurs. Je ne veux pas les rencontrer parce qu'il y en a forcément qui sont sympathiques. Et après, on ne peut pas dire ce qu'on pense vraiment du film dans lequel ils jouent. Et...
Donc, un critique cinéma se doit de ne jamais rencontrer dans la vie vraie les acteurs.
C'est mieux, oui, c'est pour être libre. Mais Isabelle Huppert, c'est un symbole, hein, c'est... Comme elle joue dans 5 films par an, des films d'auteur, comme on dit, et c'est la caricature. Puis c'était un running gag dans le livre. Mais moi, en plus, moi, j'ai toujours été du côté d'Adjani contre Isabelle Huppert. À l'époque, c'était ça. Il fallait choisir son camp, c'était les Beatles ou les Rolling Stones.
Voilà.
Et bon, c'est par fidélité à mes rêves de jeunesse.
Alors Éric Neuhoff, j'imagine que vous qui depuis donc 40 ans parallèlement à votre vie d'écrivain êtes critique de cinéma, vous ne vous rendez pas à la cérémonie des Césars dont vous dites il y a quelque chose d'obscène à regarder ces gens en smoking qui se croient obligés d'évoquer les intermittents et les migrants puis qui vont dîner au Phuket's, sauf bien sûr s'ils ont perdu. Est-ce qu'il vous reste des amis dans ce métier ?
Mais comme je ne les connais
non, mais
pas, mais...
Les acteurs, vous ne les croisez ouais. pas, mais par exemple...
Mais les metteurs en scène non plus.
Non plus, pas non. Les scénaristes, pas...
Non. Si, je connaissais Jean-Loup Dabadie, là, qui nous a quittés cette année, qui était un très très bon scénariste, celui de Sautet, de La Gifle avec Isabelle Adjani, d'un film de Truffaut. Et lui, je le connaissais, mais il était un peu hors circuit maintenant. Et c'était épatant de discuter avec lui et tous ses souvenirs. Il avait une mémoire phénoménale. Et non, mais il vaut mieux ne pas connaître... Mais même les gens qu'on admire, hein, c'est la fameuse phrase de Proust qui disait « Ne me présentez pas un écrivain dont j'ai aimé les livres, ce serait comme rencontrer une oie après avoir mangé du foie gras. » Et on risque d'être déçu en voyant en chair et en os les gens qu'on admire.
Bon, pour vous, Éric Neuhoff, le cinéma américain n'est pas mieux loti depuis 1969, l'année où sortit Easy Rider et l'année où Sharon Tate fut assassinée à Los Angeles par la secte de Manson. Le Flower Power, écrivez-vous, a fini dans le sang. Et à partir de là, tout s'est obscurci au pays de l'usine à rêve, c'est ça ?
L'ère des studios, oui, c'est terminé, mais il y a eu quand même une décennie assez incroyable là, avec le nouvel Hollywood, tous les petits nouveaux comme Coppola, Scorsese, Brian De Palma, Spielberg, qui ont donné vraiment un coup d'accélérateur et de jeunes en s'inspirant énormément des cinéastes européens, par-dessus le marché. Mais tout ça s'est terminé plus que dans le sang, dans l'argent, parce qu'à la fin, c'est devenu Star Wars et les films qui servaient de parc à thème et pour vendre des bibelots dans la salle. Et ça a complètement changé la donne aussi, ça.
Alors, vous évoquez le nouvel Hollywood. Dans ce livre, justement, intitulé Sur le vif, vous écrivez que le nouvel Hollywood est né quand Charles Manson, donc le gourou qui a fait assassiner Sharon Tate, a contacté depuis sa cellule Dennis Hopper, héros de Easy Rider, pour qu'il interprète son rôle dans un film.
Oui, pareil,
donc là, tout se mélange.
Tout se rejoint, et deux cinglés, hein, d'ailleurs. Enfin, l'un beaucoup plus dangereux que l'autre, mais ça aurait été une rencontre. Mais c'est vous dire un peu les esprits malades qui régnaient à ce moment-là. Ce type dans sa prison qui avait fait assassiner des dizaines de personnes, et puis ce réalisateur complètement défoncé qui avait... tourner Easy Rider, qui ne savait plus quoi faire de ses dollars ni de sa poudre. Mais ça a donné des trucs très très bien après. Hein.
Comme ?
Ah bah, comme les premiers Scorsese, les gens de la pluie de Coppola, les premiers Brian De Palma. Tout ce nouvel Hollywood là a donné des choses vraiment inaltérables. Mais je trouve, oui, c'est peut-être le côté nostalgique que... En cinéma, c'était mieux avant, effectivement. Ça, je n'en démords pas. Et je prends pas de risque, hein, non plus.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Avec Isabelle Morizet sur Europe 1.
Cher Éric Neuhoff, pourquoi auriez-vous détesté avoir un père écrivain ?
Ah oui, parce qu'il ne se serait pas assez occupé de moi, je pense. Et puis je trouve, il y a un petit côté dégoûtant dans chez les écrivains.
C'est dégoûtant.
Enfin, dégoûtant, bizarre. C'est pas normal de trouver que la vie ne suffit pas et d'avoir besoin de coucher sur le papier des choses qu'on a dans la tête. C'est un drôle de métier, ouais. Ça... Oui, j'aurais pas du tout aimé avoir un père écrivain.
Vous avez des enfants ?
Oui, oui, oui.
Bon, ils se sont accommodés comment du métier de leur père ?
Oh ben, en ne lisant pas mes livres.
Non.
Non, ils ne sont pas fous. Je crois que ça ne les intéresse absolument pas. Ouais, c'est...
Ils les ont tous lus en cachette, bien sûr.
Non, je ne sais pas. Tant pis pour eux.
Bon, vous avez deux fils, n'est-ce pas ?
Oui, c'est ça, ouais.
Bon, quand on est père de deux fils, on se doit d'apprendre à être un homme heureux. Vous y êtes parvenu ?
À leur apprendre ?
Parce que je ne sais pas
ouais.
si le bonheur est un bon terreau pour la bonne littérature. Hein. C'est Gide qui disait qu'en fait, on fait de la mauvaise littérature avec les bons sentiments.
Ouais.
Donc, il faut savoir s'extraire pour écrire. Mais quand on est père, on est dans la communion permanente et on est dans le bonheur de cet amour qui vous inonde.
Oui, et puis quand on est père, la vie de vos enfants est plus importante que ce que vous écrivez. Hein. C'est un choix, ça. Et on ne va pas sacrifier une journée au parc ou un match de football pour écrire un chapitre. On fait ça le soir, quand ils sont couchés. Et non, mais surtout, ça fait partie des expériences de la vie, hein, les enfants. Comme disait un de mes amis, les enfants, c'est emmerdant d'en avoir, mais c'est encore pire de ne pas en avoir. Et c'est pas faux.
Patrick Modiano confie que, pour lui, écrire, c'est comme conduire dans le brouillard. En réalité, on ne sait pas très bien où on va. Alors, vous partagez cet avis, Eric Neuhoff, ou au contraire, pour vous, écrire, c'est vous lancer dans un périple, une expédition sous un ciel clair et l'horizon dégagé. Vous savez toujours où vous allez.
Il faut que j'aie la dernière phrase. Mais ensuite, oui, il suffit de remplir les pages. Si on a la première et la dernière phrase et le titre, 90% du travail est fait.
Mais vous avez d'abord le titre ?
Ça dépend, ça dépend.
Et la première phrase ?
La première phrase,
parce qu'elle est redoutable, cette première phrase.
Ah oui, mais il faut...
J'imagine qu'on peut en crayonner une centaine.
Ah ben, faut bien la choisir, ça compte énormément. Par exemple, là, je viens de lire un roman de Pierre Adrian qui s'appelle « Les bons garçons ». Et la première phrase est celle-ci. C'était un jour bleu, un dimanche à tout foutre en l'air. Eh ben, on a envie de continuer.
Formidable.
Alors que, bizarrement, longtemps, je me suis couché de bonheur la première phrase de
oui,
La recherche
pourtant,
du temps perdu.
Proust, c'est pas... ah, ben, quelle œuvre.
On continue quand même.
Voilà.
Non, mais Modiano a raison. Quand on commence un livre, on ne sait pas trop où on va. Et puis, ça, on éclaire des zones au fur et à mesure. Mais je ne crois pas tellement les gens qui disent « Mes personnages m'emmènent, je ne conduis rien. »
Ouais.
C'est un peu de la fable.
Ça, c'est ce qu'on dit au lecteur.
Ouais.
Bon, et alors, l'art du titre, c'est un exercice délicat et lourd, lui aussi, de conséquences. Un excellent livre peut pâtir d'un mauvais titre et inversement ?
À la recherche du temps perdu, qui n'est pas un très bon titre, avait failli s'appeler Les colombes poignardées, ce qui est affreux.
Ce qui est donné, là, c'est redoutable.
Ouais, ouais. Mais bon, si le livre est à la hauteur, vaut mieux un mauvais titre et un bon livre que l'inverse. Hein.
Et comment vous viennent les titres de vos romans ?
Par hasard, comme ça, en réfléchissant. Et... Précaution d'usage, je me suis trompé. Je pensais que c'était ce qui avait marqué sur les boîtes de médicaments. Et ce n'est pas du tout ça.
Donc c'est en prenant un jour un médicament et...
Voilà. Je m'étais dit, précaution d'usage, comme c'est un premier roman, ce sera la conduite à avoir dans la vie. Enfin, c'était ça l'idée, mais...
Mais en fait, ce n'est pas du tout écrit sur...
Non, précaution d'usage, c'est un truc de politesse. Avec les précautions d'usage, c'est en faisant attention.
Alors, vous voyez, c'est encore une idée d'écrivain, finalement.
Oui, c'est donc une erreur.
Est-ce que la bonne littérature, comme beaucoup d'autres arts, vieillit ?
Ah oui, il y a des choses, oui, qu'on n'arrive plus à lire. Les romans de Mauriac, par exemple, c'est un petit peu rude. J'ai essayé de relire Thérèse d'Esquerrou... On a du mal. Alors que le bloc-notes, lui, est toujours quelque chose de phénoménal. Un style, une méchanceté, un esprit. Et ça, c'est...
Mais alors, c'est extraordinaire parce que Mauriac, en même temps, est beaucoup plus proche de nous que ne l'est, bien sûr, Balzac, Hugo, dont on se délecte de la lecture.
Oui, mais l'univers de Mauriac est très circonscrit dans l'entre-deux-guerres, la religion, la province...
Impliqué par une époque et un mode de pensée.
La province n'existe plus maintenant, hélas.
Oui,
La province, c'est Paris en plus petit, en gros, avec les mêmes emmerdements, les mêmes boutiques. Alors qu'à l'époque, c'était quelque chose de différent. Mais c'est dommage. Mais Balzac, lui, est toujours moderne parce qu'il s'intéressait à la société, au réseau, au complot, au pouvoir, à l'argent.
Voilà, les Rastignac existent toujours.
Ça, oui, ça, les Rastignac, les belles amies de Maupassant aussi, ouais. Il y en aura toujours. Et tant mieux.
Et tant mieux. On continue cette balade en compagnie d'Éric Neuhoff qu'on retrouve dans un bref instant.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. 15h, 16h sur Europe 1.
Je reçois l'écrivain et journaliste au Figaro et au Masque et la Plume, Éric Neuhoff. Cher Éric Neuhoff, puisque vous prétendez que le passé pour un écrivain est comme la farine pour un boulanger, eh bien, j'aimerais bien savoir quel regard l'écrivain que vous êtes porte sur ce troisième millénaire qui nous promet un avenir muselé et confiné, sous domination des virus qui s'échapperont de laboratoires indélicats. Bref, un avenir, j'ai envie de dire, passé à l'eau de Javel, du principe de précaution.
Ouais.
Vous regardez tout ça comment ?
Avec recul et une espèce de tristesse, oui, parce que l'expression « passé à l'eau de Javel » est très juste. C'est que l'époque n'a pas beaucoup de goût, elle manque d'aspérité, Paris est devenue une ville antipathique, sinistre.
Qui ne peut plus du tout inspirer les cinéastes d'ailleurs, n'est-ce pas ?
Bah non, ouais, je comprends.
Elle est trop laide pour ça aujourd'hui.
Oui, c'est bizarre. Hein, c'est... Et la province non plus, on voit très très peu la province dans les films français. Mais oui,
donc le gris a envahi nos vies.
Oui, oui, l'époque manque de fantaisie, d'esprit libre, de types comme Claude Chabrol qui faisait du cinéma pour s'amuser, qui choisissait ses tournages selon les restaurants.
Gastronomiques.
mais non, mais ce sont de très bons motifs tout ça. Et là, en plus avec le virus, je crois que oui, c'est pas rigolo. Je plains les gamins parce que comment ils vont faire avec les masques, les boîtes sont fermées pour draguer des filles, pour rencontrer des copains. Non, mais ça doit être un problème, j'imagine. C'était déjà compliqué de mon temps sans masque.
Mais alors aujourd'hui...
maintenant, cela dit, ça leur donne peut-être des excuses pour rentrer bretouille maintenant.
Et puis on ne peut plus voyager et prendre un avion
non
pour partir
plus,
à l'autre bout
ça,
du monde.
C'est...
Donc la littérature, plus que jamais, va nous être nécessaire, puisque le seul voyage permis, et pour d'autres raisons politiquement correctes, ce sera le voyage immobile.
Oui, complètement.
C'est la lecture.
Non, c'est une drôle d'idée que de penser qu'on ne peut pas aller à New York, ou à Madrid, ou même facilement à Bordeaux. C'est un peu triste quand même de se dire qu'on est confiné chez soi, et que tout est compliqué maintenant, et que rien n'est gratuit, qu'il faut penser à tout, à son masque, au gel... À ce qu'on dit, à ce qu'on lit, à ce qu'on écrit, ça va devenir un peu invivable, mais on va s'y faire, puis on va lutter.
Vous croyez qu'on va s'y faire ? Non.
Oh, l'ennui,
il faut rester dans la résistance.
Hein, l'ennui ne peut pas toujours gagner, et je crois qu'il y aura toujours des 3000 personnes qui prendront le maquis, qui se reconnaîtront. Il faut être bolchevique, c'est toujours les minorités qui peuvent gagner.
Alors, on parlait justement de voyage ou de non-voyage. Quel livre vous a offert le voyage le plus éblouissant, le plus intense, parmi ceux que vous lisez ?
Un livre qui m'a fait voyager,
oui.
C'est peut-être La Chartreuse de Parme, parce que c'était le style et l'Italie, et puis cette histoire d'amour aussi qui me faisait rêver.
Stendhal.
Ouais, Stendhal. Ouais.
Bon, en fait, Éric Neuhoff, on écrit pour soi ou on écrit pour les autres ?
On écrit parce qu'on ne sait pas faire autrement, mais on n'est pas obligé. On écrit parce que ça fait plaisir.
C'est... Bien sûr qu'on n'est pas obligé, mais ceux qui ne peuvent pas s'empêcher justement d'écrire.
Oh bah, ce sont des malades.
Vous êtes un malade ?
Non, parce que moi je peux très bien rester sans écrire.
Alors vous me tendez une perche, parce que par exemple Patrick Modiano, et je l'ai lu justement dans votre nouveau livre, avoue être fasciné par les écrivains qui cessent d'écrire. Le pourriez-vous, Éric Neuhoff ?
Oh, peut-être, oui. Ah oui. Oh, oui, non, parce qu'il y a un tas d'autres choses à faire. C'est, du moment que je peux lire des livres, ça... J'écrirai toujours...
Vous ne pourriez pas vous contenter d'une vie de lecteur ?
Bon, peut-être pas, non. Mais j'écrirai toujours des petits trucs. Mais tant que des éditeurs les publieront, oui, je ferai un petit effort. Mais alors, je n'aime pas l'idée des gens qui tiennent leur journal pour le mettre dans un tiroir.
Et pourtant, vous avez adoré à l'adolescence lire les journaux intimes de Julien
Green. Oui, mais... Il pensait les publier, hein, quand même, la preuve.
Vous avez lu le journal inutile de Paul Morand ?
Oui, oui. Ah, c'est
qu'en avez-vous pensé ?
Ah ben, il y a des obscénités, effectivement, mais il y a surtout un style et une curiosité. Moi, qui m'a soufflé pour un bonhomme de plus de 80 ans,
ouais.
Il était au courant de tout. Il voyageait, il prenait sa bagnole pour traverser tous les pays. Il était au courant de toutes les parutions. Il connaissait les hôtels. Non, mais c'est une curiosité. Puis il y a... quand il a perdu sa femme, il y a des pages sur son chagrin qui vous sautent à la gorge. Oui, à un moment donné, oui. Il s'arrête en voiture sur le bas-côté dans la forêt et il raconte qu'il pleure au volant. Et le chapitre est déchirant. Et pour ça, il lui sera pardonné ses embardés dans des zones un peu, sinon grises, mais presque noires. Là.
Voilà, exactement. Bon, nous, lecteurs en tout cas, on va pouvoir se réjouir de la lecture de Sur le vif, le nouveau livre, qui est en fait nourri d'articles, certains écrits très très récemment, d'autres plus anciens. Il manque, alors là je m'adresse à l'éditeur, hein, aux éditions du Rocher, il manque les dates, parce qu'on aimerait bien savoir quand votre plume a noirci des pages, lorsque vous écrivez sur Bardot, sur Bernard Franck, lorsque vous écrivez sur Audiard, lorsque vous écrivez sur le Festival de Cannes. Bref, bien sûr, il faut s'emparer ce week-end de ce livre. Merci infiniment d'être
merci
passé
à vous.
Par cette
très,
émission.
C'était très agréable et rare comme émission.
À bientôt.
Merci.
Europe 1.